franceinter.fr.
Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Patrick Cohen.
Votre invité ce matin.
Rappelez-vous, 1984, la France était dans la rue, divisée sur l'école libre. Il est appelé à la rescousse et devient ministre de l'Éducation. 30 ans après, l'école divise encore la France. Qu'en pense Jean-Pierre Chevènement? Il est notre invité.
A tout à l'heure, 7h43.
Le 7-9. Sur France Inter.
Thomas Legrand pour l'édito politique. L'Église protestante unie de France autorise donc la bénédiction des couples homosexuels.
Oui, voilà un signe d'une meilleure acceptation de l'homosexualité, contrairement à ce que le bruit médiatique laisse croire. La mécanique du tout info et des réseaux sociaux a tendance à surexposer l'emballement des réactions à un fait plutôt que le fait lui-même. La semaine dernière, on a beaucoup commenté une étude pourtant contrastée sur la montée de l'homophobie, sans se rendre compte que ce que l'on désigne par homophobie aujourd'hui n'est pas exactement ce que l'on appelait homophobie il y a 20 ans. Aujourd'hui, les mariages homosexuels se célèbrent sereinement. Et même si cela reste extrêmement dur d'avouer son homosexualité dans certains milieux, c'était quasiment impossible il y a quelques années. Ce week-end, donc, les représentants d'un culte monothéiste ont décidé d'accueillir les couples homosexuels mariés. Rappelons qu'il y a 15 ans, au moment du vote du PACS, Lionel Jospin était obligé de promettre aux députés que le PACS n'était pas le premier pas vers le mariage. Cette promesse était sincère, mais l'acceptation de l'homosexualité est en fait très rapide. Nous ne nous en rendons pas compte parce que la voix des opposants à cette évolution bénéficie du fait de l'émergence des réseaux sociaux, d'une caisse de résonance démultipliée. Dans ce nouvel environnement médiatique, le bruit des réactions est plus audible que le silence des évolutions.
La défense des valeurs familiales est quand même redevenue un thème de mobilisation.
Eh bien, pas tant que ça en réalité. Au Front National, par exemple, ce n'est pas un thème porteur. L'UMP a prudemment accompagné les manifs pour tous afin de ne pas se couper d'une partie de la droite conservatrice qui constitue quand même l'une de ses bases classiques. Mais on voit bien que dans la formation du nouveau mouvement, ce n'est pas un sujet et que ceux qui promettaient de revenir sur le mariage pour tous ont perdu la partie. Le thème du délitement de la famille est un thème sans fond. D'ailleurs, Alain Juppé, affable conservateur pragmatique, souligne ce phénomène dans une biographie de Montesquieu, écrite en 1999. Il rappelle comment l'un des pères fondateurs du libéralisme politique déplorait déjà la décrépitude des valeurs familiales. Le désordre, dit Montesquieu, ne vint qu'insensiblement. Il commença sous François Ier, il continua sous Henri II. S'agissant de l'évolution de la place de la femme dans le couple, Montesquieu poursuit. Jamais le mariage ne fut plus insulté que sous Henri IV. Alain Juppé conclut justement... Comme quoi, le débat sur l'affaiblissement des valeurs familiales ne date pas d'hier. Depuis le temps que la famille se délite, il devrait ne plus rien en rester aujourd'hui. Le débat qui s'est déroulé ce week-end au synode protestant est beaucoup plus révélateur de la réalité de l'évolution de la société que les résultats conjoncturels d'une enquête sur l'homophobie ou les manifestations des veilleurs anti-mariage gay qui savent surtout tweeter et retweeter leur exploit groupusculaire.
Thomas Legrand avec une petite bibliographie. Tiens, la Montesquieu par Alain Juppé, c'est Montesquieu. Que le moderne aux éditions Perrin.
Et ça a été réactualisé et c'est ressorti
récemment. Voilà. Merci, 7h46.
France Inter, Patrick Cohen. Le 7-9.
L'écho du jour, Bruce de Galzin. D'abord, l'épargne solidaire qui progresse, mais moins vite que l'année dernière.
Une croissance à deux chiffres toujours. Elle a augmenté de près de 14% l'an dernier. C'était 28% en 2013. Mais jusque-là, elle était portée par l'épargne salariale. Surtout, désormais, les Français placent aussi leur argent directement auprès des entreprises solidaires et même des banques. L'encours de l'épargne solidaire atteint presque 7 milliards d'euros, à comparer tout de même avec l'épargne totale des Français qui dépasse 4 000 milliards d'euros.
L'histoire du jour, la matrice de Macron.
De 34, il passe à 10. La nouvelle France industrielle, qui va rentrer dans sa seconde phase aujourd'hui avec un déplacement d'Emmanuel Macron à Nantes, va se concentrer sur 10 solutions et non plus 34 plans. C'est Arnaud Montebourg qui avait lancé le chantier en septembre 2013 en grande pompe à l'Élysée et sur un air des 4 saisons de Vivaldi. Un an plus tard, Emmanuel Macron, au pouvoir, prévenait déjà qu'il allait s'approprier cette nouvelle France industrielle. Aujourd'hui, Bercy veut accentuer les ambitions, nous dit-on. On va dépasser le simple outil technologique, érigé en matrice de la nouvelle stratégie industrielle. Le 34e plan Usine du futur se transforme en industrie du futur. Ce qui change, ce n'est pas le financement, on n'a pas plus d'argent aujourd'hui qu'hier, c'est l'ambition donc. Bercy veut amener toutes les entreprises au numérique. 2000 PME seront accompagnées en 2 ans, les salariés formés et notre modèle exposé, comme en Allemagne par exemple. Emmanuel Macron veut créer un événement majeur en France autour du numérique et compte s'inspirer de la foire de Hanovre qui attire chaque année 200 000 professionnels. Alors, changement d'échelle, Si l'on en croit Guy Mahoumani, le président de Syntec, le premier syndicat patronal du numérique, c'est le cas. Pendant 2 ans, dit-il, les plans industriels ont été bricolés. Celui qui n'était pas entendu hier et critiqué avec force le gouvernement est associé aujourd'hui à l'industrie du futur. Et s'il y croit, c'est parce qu'il a perçu chez François Hollande un réel intérêt pour le numérique. Lors de son discours à Figeac il y a un mois, il a osé dire devant 1000 salariés, plutôt hostiles selon Guy Mahoumani, que l'on était très en retard en matière robotique, mais qu'il y aurait plein de robots et plein de salariés. Dire les deux en même temps, ce n'était pas facile, assure le président de Syntec, car la révolution numérique est schumpeterienne, de l'économiste Joseph Schumpeter, qui a théorisé la destruction créatrice. Pour créer de nouveaux métiers, il faut en détruire certains. Et oui, il va falloir sacrifier certaines choses, explique Guy Mahoumani. Mais c'est un vrai gisement de croissance. Alors maintenant, il y croit, lui qui se définit comme un anti-Montebourg et un pro-Macron.
Bruce de Galzin, merci. Sur Inter, il est 7h49.
Le 7-9 sur France Inter.
Votre invité Léa Salamé est ancien ministre, président d'honneur du mouvement républicain et citoyen.
Bonjour Jean-Pierre Chevènement.
Bonjour.
Le drapeau noir de l'État islamique flottait furtivement ce week-end au-dessus des ruines de Palmyre. La ville de Ramadi, elle, est tombée à leurs mains. Faut-il ne rien faire? Faut-il laisser faire?
Écoutez, je connais la capitale de la reine de Palmyre. C'est un site merveilleux. Et le fait que les djihadistes de Daesh aient été repoussés me réjouit profondément. Ils ont été repoussés par l'armée syrienne.
De Bachar el-Assad.
De Bachar el-Assad. Il faut quand même se rappeler que Ramadi a été perdu par l'armée irakienne du gouvernement irakien actuel qui peut-être n'a pas reconnu aux sunnites de cette région occidentale de l'Irak la place qui était la leur. Donc, je ne veux
vous
pas faire...
Vous félicitez de la victoire de Bachar el-Assad temporaire, mais en tout cas, c'est vrai qu'il l'a repoussé.
Évidemment.
À... Ah oui.
Et pensez-vous que les Américains soient intervenus pour liquider le financier de Daesh sans avoir pris la tâche du gouvernement syrien? Évidemment, non. Alors, je pense que le gouvernement français ferait bien de réviser sa copie.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire penser qu'un rôle de médiation est plus utile et permet d'éviter davantage de souffrance qu'une prise de parti pour un groupe peut-être sympathique mais qui n'a aucune chance de gagner car sur le terrain il ne fait pas le poids. Hein, disons que voilà, en politique il faut aussi savoir choisir ce qui est praticable.
Retour en France, Jean-Pierre Chevènement. La réforme du collège aura bien lieu, écrit ce matin dans Libération le Premier ministre Manuel Valls. Le débat n'est pas entre élitisme et égalitarisme. Ceux qui entretiennent volontairement la confusion entre excellence et élitisme sont en fait les promoteurs cyniques d'une excellence réservée, écrit Manuel Valls dans Libération. Il a raison ?
J'ai vu cela. Je pense que le problème n'est pas bien posé. Je pense que l'égalitarisme niveleur n'est pas la bonne solution.
C'est ce qui se passe là.
Hein, c'est souvent ce qui se passe dans notre école, où on incrimine l'inégalité, qui est un constat que je fais, pour détruire ce qui reste de l'école. Or, l'école n'a pas besoin de réformite. Hein, on a détruit l'école de l'intérieur. Prenons l'exemple de ce qui nous est proposé. 20% de temps libre à l'appréciation du principal de collège, au profit de programmes interdisciplinaires. Mais très franchement, la baisse du niveau dans les disciplines, je prends par exemple les mathématiques, mais c'est vrai dans tous les domaines, le français, l'orthographe, la grammaire, cette baisse du niveau dans les disciplines condamne les enseignements interdisciplinaires, car on ne peut faire de l'interdisciplinaire, et je suis pour, que sur la base de bonnes disciplines, de disciplines comprises. Hein. Prenons les programmes d'histoire. Monsieur Lussault, c'est un géographe, il est président du Conseil national des programmes. Qu'est-ce qu'il dit? Faut-il travailler sur une hypothétique belle et bonne histoire de France? Faut-il un enseignement allégorique enseignant une nation française mythique qui n'a jamais existé? Et il refuse ce qu'il appelle le roman national, mais il confond le roman national et le récit national.
Et vous défendez le roman national, il faut
Je
continuer
Je défends le récit national, qui doit être objectif. D'ailleurs, c'est ce que François Hollande a utilisé comme expression, mais M. Lussot, qui est le président du Conseil national des programmes, se dresse contre François Hollande et Najat Vallaud-Belkacem en leur disant « J'invite François Hollande et Najat Vallaud-Belkacem à ne pas forcer le trait sur ce point ». Il dit le roman national, mais eux ont dit le récit national. Et à ne pas... car il finirait par désespérer Billancourt. Ça veut dire quoi, désespérer Billancourt? Ça veut dire que lui lance un appel à la base enseignante. Malheureusement, la base enseignante, ou heureusement, la base enseignante n'est visiblement pas sur la ligne de M. Lussot. La France est une personne qui évolue d'âge en âge, mais il faut apprendre son histoire, parce que comment autrement voudriez-vous donner aux jeunes nés de l'immigration l'envie de s'intégrer à un pays qui passe son temps à se débiner tous les jours?
Donc il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher à l'enseignement de l'histoire, il ne faut pas l'adapter en 2015.
Écoutez, il faut procéder aux réformes strictement nécessaires. Et bien sûr, une certaine mise à jour des programmes périodiques est souhaitable, mais je dirais que Alain, qui était quand même un républicain, disait que l'école était un sanctuaire, qu'il fallait éviter que la société y pénètre trop. Et aujourd'hui, nous souffrons de ce que la société veut s'ingérer dans l'école à tout moment. Et je pense qu'il faut ramener l'école
à
son
rôle.
Faut fixer à l'école ses missions. C'est l'école de la République, c'est une institution. Elle doit transmettre les savoirs et les valeurs, et notamment former le citoyen à penser par lui-même. Je pense que le rappel de ses grandes missions devrait suffire.
Jean-Pierre Chevènement, en 1984, une partie de la France était dans la rue contre le projet de loi Savary. François Mitterrand, à l'époque, vous avez appelé à la rescousse, vous avez nommé ministre de l'Éducation, il avait retiré le projet de loi Savary. Demain, les profs sont dans la rue. Est-ce que vous pensez qu'on peut revivre une nouvelle guerre scolaire 30 ans après?
Non, je ne le pense pas. Mais je pense que Madame Najat Vallaud-Belkacem, personne fort sympathique au demeurant, devrait montrer un peu de flexibilité et accepter que les horaires disciplinaires soient protégés pour qu'on fasse ensuite de l'interdisciplinaire, mais pas d'une manière facultative, pas avec ces sous-thèmes facultatifs qui feraient que ici on apprendrait la chrétienté à l'âge médiéval dans les campagnes, et là, l'âge d'or de l'islam en Andalousie. Mais ça va se faire comment, ça? Qui va décider tout ça? C'est-à-dire qu'on ne va plus enseigner la même histoire aux Français d'un bout à l'autre du pays. Hein, est-ce que c'est censé? Voilà la question que je pose. Réfléchissez, et je souhaite aussi que Madame Najat Vallaud-Belkacem prenne le temps de la réflexion. D'ailleurs, il est prévu que pour les programmes, il soit revu d'ici l'automne.
Jean-Pierre Chevènement, les socialistes sont d'abord socialistes et ensuite républicains. Nous sommes républicains avant d'être gaullistes, libéraux ou centristes. C'est Nicolas Sarkozy qui dit ça.
Non, il peut y avoir plusieurs manières d'être républicain. Chacun peut se faire son idée de l'intérêt général. Ce qui me choque, moi, dans les républicains, c'est les républicains. S'il y a les républicains d'un côté, les autres ne sont pas républicains. C'est ce que dit M. Sarkozy. Ça, c'est choquant.
Vous avez saisi la justice. Vous participez à...
C'est-à-dire, je pense qu'il faut
éviter... Un mouvement d'élus de gauche et d'associations qui ont saisi la justice.
Cette appropriation de ce qui nous rassemble. Cette appropriation particulière de ce qui nous rassemble. M. Sarkozy qui avait mis le prêtre au-dessus de instituteur, c'est son point de vue. Mais c'est pas très républicain quand même. Donc je l'inviterai à travailler sur la cohérence et l'exigence de l'idée républicaine. L'idée républicaine, c'est l'idée d'un peuple de citoyens qui délibère dans un espace laïque, délivré des dogmes pour rechercher la lumière de la raison naturelle, le meilleur intérêt général. Et ça suppose le rôle de l'école qui forme le citoyen en France. L'école française n'est pas n'importe quelle école.
Jean-Pierre Chevènement était notre invité ce matin. Merci à vous. Très belle journée.